Bulles et reportages, principe actif.
Bulles et reportages. Nous sommes maintenant avec Nathalie Gobert, responsable de l'accueil et de l'animation ici sur le site archéologique du Vieil Évreux Gizakoum. Bonjour à vous Nathalie.
Bonjour.
Alors, vous étiez en train de m'expliquer, là on est sur une zone d'expérimentation, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Oui, effectivement, ici on a une zone d'archéologie expérimentale où on essaye de remettre en œuvre des techniques du passé, notamment pour comprendre les structures archéologiques que nos collègues découvrent lors de leur chantier de fouilles.
Et donc là, concrètement, on anticipe un peu sur la suite de nos échanges, mais si j'ai bien suivi, il y a des étudiants, notamment en maçonnerie, vous me corrigez quand j'ai des bêtises, du lycée Augustin Hébert à Évreux, qui sont en train de travailler avec des techniques à l'ancienne. Ils reconstruisent des... Vous allez me compléter, parce que ils travaillent comme on travaillait à l'Antiquité. Bon, ils ont quand même, je vois, des pelles un peu plus modernes de notre époque, mais le but du jeu, c'est de travailler avec des matériaux anciens. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font et avec quoi ?
Donc là, ils sont en train de reproduire un petit morceau de maçonnerie, un mur à l'antique. Ça leur permet de notamment travailler sur la technique du mortier de chaux et de mettre en œuvre des silex et des briques qui sont en œuvre encore dans la construction traditionnelle de chez nous. Mais il faut savoir que dès l'Antiquité, en fait, et c'est déjà la construction typique des Romains, notamment le type de mur qui était utilisé sur le temple de Gizakoum. Donc là, ils sont en train d'essayer de reproduire une petite travée de mur comme sur notre temple.
On s'approche un peu d'eux pour voir ce qu'ils font.
Allons-y.
Vous êtes enseignant au lycée Augustin Hébert.
En maçonnerie, tout à fait. Ouais.
Et donc là, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec vos élèves sur le site archéologique et puis le lien avec leur formation?
Alors, nous, on a un partenariat avec le site Gizakoum qui nous permet de pouvoir un petit peu montrer un petit peu ce que les élèves sont capables de faire, donc de la pose de briques, de la pose de pierres, en travaillant avec, pas les outils de l'époque, mais avec les façons de l'époque, donc c'est-à-dire qu'à la chaux, sable, et puis traditionnellement, donc avec les mortiers. Les mortiers qu'on n'utilise pratiquement plus, nous, aujourd'hui, quoi.
C'est quoi un peu, le lien avec la formation traditionnelle ? C'est pas forcément habituel pour le lycée de travailler comme ça avec un site archéologique. Quel aller-retour il y a entre, concrètement, là, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, et puis la formation, le cursus de formation plus largement ?
La restauration des anciens bâtis, surtout, parce que nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir refaire des anciens bâtiments à l'identique, avec des méthodes de l'époque. Donc ça peut être sur du vieux colombage, sur de la vieille pierre, sur de la vieille brique. Ce qui est important pour eux, c'est que savoir qu'ils travaillent sur des vieux matériaux, ça se travaille pas du tout comme les matériaux neufs, et je dirais que bon, il y a un plaisir aussi, et puis je pense que aujourd'hui c'est ça, ils sont là sur le volontariat, et ça me fait plaisir d'avoir des gamins aujourd'hui qui sont volontaires, quoi.
Ça leur permet aussi de peut-être s'ouvrir à une autre branche, un autre secteur en lien avec le métier initial de la maçonnerie, mais de se dire on peut travailler autour de matériaux ou de constructions anciennes, et peut-être s'interroger l'aspect patrimoine, en fait.
L'aspect historique, surtout, parce que nous, aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un lien entre ce qu'on est en train de créer, ce qu'on est en train de bâtir, et puis l'historique. Parce qu'aujourd'hui, la vieille pierre était sortie des champs, les briques étaient sorties de l'argile qu'on trouvait dans les coins. Et ce qui est important, c'est de savoir quand on change de région, on va changer obligatoirement de façon de travailler, de façon de bâtir, et puis les matériaux qui vont changer, puisqu'on va trouver les matériaux en général tout autour de l'endroit où on bâtit.
Oui, c'est ça. Les constructions qu'on peut voir, voilà, des constructions anciennes typiques d'une époque, elles sont en lien avec les techniques, mais aussi les matériaux qu'on trouvait dans cette région-là. C'est évident, mais en même temps, c'est toujours important de le rappeler. C'est-à-dire que sinon, on était obligé de faire venir telle ou telle pierre du fin fond de l'autre bout de la France ou de l'Europe. C'est, enfin, voilà, en général, on s'appuyait avec ce qu'il y avait dans le coin.
Enfin, plus concrètement, quand on va dans la vallée, on travaille avec de la pierre blanche, parce que la pierre blanche, on la trouve un petit peu partout dans les champs. Quand on est ici, autour du site de Gisacom, ils travaillaient beaucoup avec des silex, donc on va travailler avec du silex. Et puis, nous, on a encore la chance d'avoir quelques forêts. Donc, et après, le bâti qu'on a eu, c'était beaucoup de maisons en colombage, qui sont à restaurer énormément. Quoi. Voilà.
Je vais m'approcher. Juste m'expliquer là concrètement ce que vous êtes en train de faire et voilà comment vous allez vous en servir après. Là, c'est du mortier que vous êtes en train de faire, c'est ça ?
Oui, c'est du mortier. Bah, là, on fait le mortier pour coller la brique.
Donc, c'est ce qui va permettre de coller les briques entre elles et que ça bouge plus après, c'est ça ?
Oui, voilà.
Ok. Et du coup, c'est quoi la recette du mortier ? Là, on fait un peu, quelque part, c'est de la chimie ou de la cuisine, quoi. Il y a des ingrédients et c'est quoi la recette ?
Bon, mais de la terre, enfin du sable.
Et pourcentage.
Pourcentage. On 3 seaux de sable, un seau d'eau et un seau de chaux.
C'est quoi la chaux?
Alors la chaux, c'est un mélange de calcaire qui a été cuit normalement. Et l'avantage, c'est que c'était le liant de l'époque, ce qui nous perd vraiment à accrocher. C'est une chaux qui va sécher avec l'air et puis l'eau. Donc ça tient avec l'air et l'eau. L'avantage, c'est que c'est complètement hydraulique derrière. On n'avait pas de ciment à l'époque. Donc aujourd'hui, on ne se sert pas de ciment.
C'est la consigne. Et est-ce que vous savez, là, pour sur ce chantier, vous allez y être combien de temps, combien de jours, combien de temps ça va vous être présent sur le site là? 2 jours ?
Ouais, 2 jours.
Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ce chantier-là en particulier ? Ah ben voilà, qu'est-ce que ça peut vous apporter ?
Bah, apprendre à poser de la pierre. Et la brique.
Et des briques.
Et des briques, ouais. C'est pas forcément des choses que vous voyez de cette façon-là en cours le reste de l'année, c'est ça ?
Ouais, voilà.
C'est différent, c'est particulier.
Je peux me permettre, ils sont en première année de CAP, donc ils commencent tout juste. Et l'avantage d'être ici aujourd'hui, c'est qu'ils trouvent vraiment un intérêt. Et je pense qu'ils sont en plaisir autant que nous, quoi.
C'est du concret, ouais.
Voilà, je pense que le plaisir est partagé. Et à partir du moment où on se fait plaisir, je pense qu'on arrive à monter des belles choses, quoi. Beaucoup de bruit parce que on est en brique et la brique elle se pose on la pose plutôt avec juste un manche de truelle, donc on la pose pas là au marteau. Donc là on a monté les deux piles, on est en train de faire un remplissage à la pierre, sauf que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que logiquement dans le temps il montait des très très grandes longueurs. Et nous, aujourd'hui, on ne peut pas monter des très grandes longueurs parce que le silex ne tire pas.
C'est-à-dire ?
Il ne va pas pomper l'eau du mortier. Que dans le temps, il montait des très très grandes longueurs. Ça fait que sur les longueurs, quand il revenait le lendemain, la longueur avait séché. Il pouvait remonter un peu plus haut. Donc là, ce matin, on a réussi le temps de tracer, le temps de se positionner. Parce que étant un site archéologique, on ne peut pas faire de fouilles obligatoirement. Donc on a positionné une plaque en béton pour pouvoir supporter notre petit mur. Et là, on fait un remplissage avec du silex.
Donc concrètement, je vais essayer de décrire un petit peu pour les auditrices et les auditeurs. Il y a de part et d'autre de ce mur, il y a déjà des piles de briques que vous avez calées avec du mortier. J'ai peut-être pas le bon vocabulaire, hein, me corrigez.
C'est tout à fait ça. Ça ressemble un petit peu à des piliers. Nous, ces piliers vont monter en arpache, c'est-à-dire qu'on va, à chaque fois, on va se décaler comme des créneaux pour pouvoir justement avoir un ancrage dans la pierre, maintenir le mur et qu'il permette qu'il soit plus solide. Derrière, la brique, étant un matériau à l'époque qui coûtait beaucoup plus cher que la pierre, puisqu'il fallait la fabriquer, ça demandait de la cuisson, ça demandait de la main d'œuvre. Oui, le trou, tu peux le boucher, oui, tout à fait. Donc, ça demandait une certaine main d'œuvre, donc on s'en servait essentiellement pour faire les extérieurs et pour faire de l'agrément ou un petit côté esthétique. Comme dans le temps, on a eu souvent les premiers carrelages qui sont arrivés en terre cuite, on ne mettait que le milieu de la pièce en carrelage et tout le reste était bouché avec de la brique parce que c'était caché sous les meubles. Et quand c'est caché sous les meubles, on met un petit peu n'importe quoi. Voilà.
Et donc, il y a ces deux, de part et d'autre, il y a ces deux piliers de briques, voilà. Et au milieu, des silex rassemblés entre eux que vous allez faire tenir avec le fameux mortier que vous étiez en train de faire à l'instant, c'est ça?
Tout à fait. Donc, à l'intérieur, normalement, on devrait avoir plus ou moins un béton, sauf qu'il n'y a pas de ciment dedans. Et à l'époque, il me pilait de la brique écrasée. Mais malheureusement, moi, j'ai récupéré un peu de briques, de la vieille brique ancienne, pour redonner un petit peu cachet, le même cachet qu'on a ici. Et cette brique ancienne, bon, j'en avais pas de cassé, donc en général, on les enlève, on les jette. Et sinon, on en a gardé pour pouvoir justement arriver à sécher un peu le mur. L'avantage, c'est qu'en plus de ça, il devient plus étanche, puisqu'on met de la brique à l'intérieur. Et bon, après il y a des questions de résistance au niveau du matériau. Si on essaie de faire un béton, on va avoir un mélange de matériaux qui nous permet de pouvoir être mieux aggloméré et beaucoup plus solide que sur un simple mortier. Alors vous montez pas trop les garçons quand même, hein, parce que l'important c'est pas le remplissage du milieu, c'est la face extérieure, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir du beau temps.
Mais ça compte, hein, pour bosser dehors. Il vaut mieux. Hein.
Bah, ça fait partie des aléas du maçon. Quoi. Donc,
Par curiosité, c'est combien de temps là, c'est un CAP qui prépare, c'est ça?
Voilà, c'est un CAP.
Et c'est en combien de temps?
En 2 ans.
En 2 ans, ouais.
En 2 ans. Donc, on a 2 ans. On a 7 semaines de stage en entreprise pour qu'ils puissent connaître l'entreprise aussi. Donc, divisé en 2. Et avec des formations obligatoires, bien sûr, puisque les formations aujourd'hui sont le montage d'échafaudage, les CST, le PRAP, donc qui permet d'éviter tous les accidents et tous les risques qu'on a aujourd'hui, très limités dans le bâtiment maintenant, hein, par rapport à ce qu'on a connu étant jeune.
Parce que cette évolution, c'est dû à quoi? Aux matériaux, aux mesures de sécurité qui sont prises, qui sont beaucoup plus importantes qu'à une certaine époque. Enfin voilà, qu'est-ce qui a changé par rapport à, par exemple, vous, votre début de carrière?
Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le mal principal des maçons, c'est le mal de dos. Et aujourd'hui, quand on regarde des sacs de ciment, alors les plus gros sacs chez nous font 35 kilos. Sinon, aujourd'hui, on essaye. Dans le temps, on avait des sacs de 50 et on nous en mettait 2 sur le dos parce qu'il fallait aller vite. Donc aujourd'hui, on a quand même on essaye de faire attention à nos jeunes, et je pense que c'est bien, mieux, quoi. Et on essaye de les préserver parce qu'on s'aperçoit que c'est pas rentable ni pour l'entreprise, ni pour la sécurité sociale, ni pour personne, quoi. Parce que bon, ça coûte cher. Quelqu'un qui s'arrête, c'est quelqu'un qui coûte cher. Et quelqu'un qui aime son métier, je pense que c'est quelqu'un qui va continuer, qui va se faire plaisir et qui va peut-être aller, parce que la retraite aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est peut-être quelqu'un qui va continuer s'il se fait plaisir à travailler, quoi.
Et s'il peut physiquement, et voilà. Qu'il n'a pas trop de problèmes de santé.
Voilà, parce que contrairement, c'est quand même des métiers très pénibles par rapport à ce qu'on voit, quoi.
Et globalement, vous, voilà, qui êtes professeur en lycée, est-ce que vous avez, voilà, sur le nombre d'années, constater une évolution de la population des élèves? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas forcément de baisse du nombre d'élèves qui s'inscrivent dans ce genre de formation? C'est-à-dire, est-ce qu'on a à peu près le même nombre d'élèves qu'il y a, je ne sais pas, 10 ou 20 ans, par exemple? Est-ce qu'il y en a un peu moins, un peu plus? Et éventuellement, les raisons que vous pourriez voir à cela?
Alors, moi, je dirais qu'avec mes élèves, non, parce que c'est des élèves qui sont en échec scolaire et je dirais qu'ils ont l'école les fatigue et ils ont qu'une envie, c'est d'être en entreprise, de pouvoir travailler. Aujourd'hui, nous, notre plaisir, c'est de pouvoir leur redonner goût au métier et qu'ils puissent se faire plaisir en travaillant. Et par contre, on leur explique que s'ils partent avec un CAP, ils auront un métier, que s'ils partent sans CAP, bah, ils n'auront rien du tout. Alors ça, c'est pour des élèves qui sont en CAP, mais on a aussi des élèves en bac pro qui seront normalement dédiés à être chef d'entreprise ou à être cadre ou à être encadrant. Et là, on a une évolution qui est un peu plus grande, donc c'est sur 3 ans. Et derrière, on a beaucoup plus de béton, beaucoup plus de mise en œuvre et des calculs, beaucoup plus de calculs de résistance, de force et de matériaux.
Ça devient justement scientifique. Pour faire le lien avec mon reportage, il y a quand même des notions de mathématiques, notamment très concrètes.
Il y a une étude de sol, l'étude de sol, on ne construit pas sur n'importe où. Donc on va commencer par des études de sol, d'après on va commencer à faire des études de matériaux en fonction de la hauteur qu'on veut monter. Donc et aujourd'hui on s'aperçoit que il y a une responsabilité du monteur qui est importante. Ouais. Et puis, on va aujourd'hui quand même sur de la lecture de plan pour eux en CAP. En bac pro, on est plus sur de la lecture informatique. Donc, on travaille sur le BIM. Donc, tous les plans sont informatisés. Et nous, on va modifier nos plans directement sur ordinateur. Et donc, on n'a pratiquement plus de papier aujourd'hui. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut gérer nos chantiers du début à la fin, jusqu'à la déconstruction, et pour pouvoir justement le retraiter derrière et savoir ce qu'on a derrière. Ça, c'est un gros avantage pour les années à venir.
C'est l'évolution de la technologie qui permet ça aussi, travailler autrement. Quoi. Et pour en revenir à ce mur, vous allez le monter jusqu'à quelle hauteur à peu près?
J'ai à peu près 200 et quelques briques. Donc, j'ai prévu, moi, le faire sur à peu près... J'avais prévu de le faire sur 3 jours. Maintenant, on va voir où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui... Bon, ça va être un peu plus long parce qu'on a eu l'implantation, la mise en œuvre. Je pense que demain, ça va aller un petit peu mieux, en espérant qu'on ait le temps. Non. Après, c'est la pierre. Donc, l'important, c'est qu'ils ont déjà compris l'implantation, ils ont déjà compris l'appareillage. Donc, l'appareillage, c'est le sens des briques, la façon dont on les pose, de manière à ce qu'elles se tiennent les uns sur les autres et qu'on n'ait pas de joints les uns au-dessus des autres. Ce qu'on appelle un coup de sabre. Voilà.
On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Moi, de mes 11 ans d'altitude, je découvrais éberlué des soldatesques fatigués qui ramenaient ma belgitude. Les hommes devenaient des hommes, les gars avalaient des soldats qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas. Et les femmes s'accrochaient à leurs hommes. jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Et voilà que le printemps flambe, les canons passaient en chantant, et puis les voilà revenant, déjà la gueule entre les jambes. Quand me repassaient en pleurant nos grands frères devenus vieillards, nos pères devenus brouillards, et les femmes s'accrochaient aux enfants. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Je découvris le réfugié. C'est un paysan qui se nomade, c'est un banlieusard qui s'évade d'une ville ouverte qui est fermée. Je découvris le refusé. C'est un armé que l'on désarme et qui doit faire chemin à pied. Les femmes s'accrochaient à leurs larmes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. D'un ciel plus bleu qu'à l'habitude, ce mai 40 a salué quelques Allemands disciplinés qui écrasaient ma belgitude. L'honneur avait perdu patience, et chaque bourg connut la crainte, et chaque ville fut éteinte. Et les femmes s'accrochèrent au silence.
Et reportage principal.
Je voulais revenir avant de parler plus concrètement du programme qui est proposé ici sur sur le site de Gizakoum sur dans le cadre de la fête de la science. Je veux bien qu'on revienne un petit peu voilà, que je viens de tester un petit peu aussi mes connaissances, mes vagues connaissances sur le site, et puis ce qu'on y retrouve aussi à l'année, voilà, pas uniquement que sur la fête de la science. Donc si mes notes sont bonnes, on est sur un site gallo-romain. Je me rappelle, mon père me disait toujours ça, les Eulerques et Burovis qui avaient vécu ici, donc un peuple gaulois, évidemment, qui avait, comme toute la Gaule avait été conquise, toute sauf un tout petit village irréductible, exactement, le village d'Astérix, on s'en souvient bien. Non, plus sérieusement, sur ce site de Gizakoum, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, y découvrir en tant que simple visiteur? Qu'est-ce qu'on y voit? Voilà.
Alors toute l'année, entre le 1er mars et le 15 novembre, sur notre saison d'ouverture, on peut découvrir les vestiges des thermes gallo-romains de cette agglomération, donc Gizakoum, qui était la ville sanctuaire, le lieu de pèlerinage de culte des Eulerques et Burovis, c'est bien ça, qui avait construit une ville à Évreux, leur chef-lieu de cité, et ici à Gizakoum, leur lieu de pèlerinage pour les fêtes religieuses. Donc on peut découvrir l'histoire de Gizakoum, surtout l'histoire de sa redécouverte par les archéologues, dans notre petit musée, le centre d'interprétation, où on peut découvrir les maquettes qui nous permettent d'imaginer le site, de mieux comprendre comment étaient les thermes, et aussi découvrir des objets trouvés sur le site, évidemment.
C'était, du coup, si je comprends bien, un lieu sacré, quelque part. C'était, voilà, un lieu de religiosité, de fête religieuse. Enfin, voilà, ça avait cette signification-là, c'est ça?
Oui, effectivement. L'ampleur du temple qu'on offre ponctuellement à la visite, notamment dans le cadre de la fête de la science, le temple qui est en cours de fouille, effectivement, avec sa superficie démesurée, ses très grandes hauteurs, l'importance, en fait, donnée ici au temple gallo-romain nous permet de deviner que cette ville qui est toute proche d'Évreux, de Mediolanum, avait plus particulièrement une fonction religieuse. Donc effectivement, des fêtes pour les différents dieux romains ou gaulois, Apollon, Jupiter notamment, on a retrouvé leur statue ici, devaient être honorées, vénérées tout au long de l'année.
Vous disiez que ça avait été, redécouvert par les archéologues. À quel moment, à quelle époque ça a été découvert ou redécouvert parce qu'on a commencé par appeler des archéologues, parce que j'imagine qu'il y avait déjà eu des découvertes avant même la création de la discipline de l'archéologie. Voilà, à quel moment ce qu'on a appelé les archéologues se sont intéressés à ce site-là?
Les premiers archéologues ou antiquaires, comme on les appelait en fait aux origines, ont commencé à fouiller sur le site de Gizakoum en 1801. Mais en fait, ils ont fouillé sur d'immenses buttes de gravats à l'emplacement de monuments qui n'avaient jamais vraiment disparu du paysage. Donc les thermes, le temple, le théâtre de Gizakoum ont été fouillés tout au long du 19e siècle et régulièrement finalement jusqu'à nos jours. Ça fait 200 années de fouilles sur Gizakoum et ses monuments.
Oui, parce qu'avant cette époque-là, en fait, c'est ce que je comprends que vous disiez, c'était recouvert de végétaux, de terre, etc. C'est ça, c'était enfoui, ça n'avait pas disparu, mais la vie avait repris son cours par-dessus, c'est ça?
Oui, complètement. Alors, on a quelque part la chance que la ville de Gizakoum, l'agglomération antique, ait été abandonnée, mais n'a pas été recouverte par une autre ville, en fait.
Donc, ce qui est souvent le cas, oui.
Tout à fait. Donc, en milieu urbain, c'est plus difficile de connaître les origines d'une ville. Ici, à Gizakoum, finalement, c'était des grandes buttes de gravats au milieu des champs ou au milieu du village qui s'est construit plus tard au Moyen-Âge, mais qui était resté quand même assez vierge de toute recherche. Donc ça a été une grande chance pour nous. Ça nous permet aussi de découvrir le site en prospection aérienne. Ce qui est recouvert peut quand même apparaître grâce aux photos aériennes. Et pour les plus grands monuments, ils étaient encore en place. Il fallait décombrer, retirer beaucoup de pierres, mais ils ont pu être facilement repérés en tout cas.
Concrètement, à l'année, hormis cette fête de la science sur laquelle nous sommes cette semaine, quels sont les grands projets menés sur le site de Gizakoum ou les ateliers ou les choses que vous proposez tout simplement à l'année au public et aux groupes scolaires notamment?
Effectivement, on accueille beaucoup de scolaires, mais aussi alors, tous les publics qui le souhaitent, entre le 1er mars et le 15 novembre, pour découvrir les vestiges ou le centre d'interprétation. On propose des visites guidées, mais aussi des ateliers. Par exemple, à chaque période de vacances scolaires, petite ou grande, on a des ateliers pour les enfants, des ateliers à faire en famille tous ensemble, et puis parfois aussi des petites propositions que pour les adultes, parce que les adultes aussi ont droit de mettre la main à la pâte ou de découvrir les méthodes anciennes. On a trois grandes thématiques importantes ici à Gizakoum qu'on relaie dans ces animations: l'archéologie, le métier d'archéologue, ensuite la civilisation gallo-romaine, l'histoire des lieux, et puis aussi la nature, l'environnement, puisqu'aujourd'hui on a créé un jardin archéologique autour des thermes, et c'est un petit îlot de nature un peu préservé dont on parle aussi régulièrement. Donc à chaque saison, printemps, été, automne, on a un petit programme trimestriel d'ateliers, de visites guidées et d'événements que l'on relaie, par exemple la fête de la science.
Et bien justement, transition toute trouvée sur cette fête de la science, donc notamment à partir d'aujourd'hui jeudi et jusqu'à dimanche. Le site archéologique est ouvert au public, on peut s'inscrire à différents ateliers. Je veux bien qu'on en parle justement. Qu'est-ce qu'on retrouve cette semaine sur Gizakoum?
Cette semaine, en fait, il faut savoir qu'à la mission archéologique départementale, dont Gizakoum fait partie, on a des archéologues qui fouillent ici à Gizakoum, notamment sur le temple, mais on a aussi toute une équipe d'archéologues qui peuvent fouiller un petit peu partout sur le département. Donc ce sont vraiment toutes les équipes du site qui sont mobilisées, par exemple pour une conférence sur le métier d'archéologue demain au sein du village des sciences à Évreux. Quasiment en même temps, demain après-midi, deux visites guidées de chantiers de fouilles qui ont lieu sur l'ancien hôpital d'Évreux, donc en cœur de centre-ville. Des visites et animations pour lesquelles il faut réserver, se renseigner sur notre site internet pour trouver notre numéro de téléphone et puis s'inscrire à ces visites. Et ensuite, directement à Gizakoum, ici au Vieil Évreux, on a les démonstrations donc de nos lycéens sur le petit muret. À partir de demain vendredi, une expérimentation sur la même zone autour de la réduction du minerai de fer avec la reconstitution d'un bas fourneau dont notre collègue Vincent Dartrois a découvert les vestiges en fouille. Donc il va essayer, grâce aux matériaux prélevés sur la fouille, de reconstituer le bas fourneau, mais aussi d'essayer de faire une réduction du minerai de fer qu'il a récupéré sur le site. Donc la métallurgie ancienne, visible ici sur le site à partir de demain après-midi jusqu'à dimanche. Et puis on proposera dimanche une petite visite un peu exceptionnelle du chantier de fouille du temple. Il est ouvert ponctuellement à la visite, mais là on offre une vue un peu extraordinaire parce qu'une vue aérienne. La responsable du chantier de fouille sera accompagnée d'un pilote de drone pour parcourir les vestiges et permettre aux visiteurs de les voir comme on ne peut pas les voir en temps normal. Donc ça c'est aussi une visite sur réservation. Et on proposera aussi dimanche de rentrer dans les coulisses de l'archéologie, parce que les gens se demandent toujours, mais en dehors du chantier de fouilles, que font les archéologues ? Donc, le responsable de la mission archéologique ouvrira les portes des réserves, des lieux de travail, pour qu'on comprenne un petit peu toute la chaîne opératoire, en fait. Après la fouille, qu'est-ce qu'on fait, notamment des objets qui sont trouvés, comment on les étudie ? Donc, une autre visite de dimanche. Je vous parlais de photographie aérienne tout à l'heure, qui est une technique très importante pour découvrir les vestiges recouverts sous les champs. Donc nos spécialistes d'Archéo 27 viendront présenter cette spécialité dimanche après-midi. Et puis avec notre médiateur, nous ferons des petits ateliers d'initiation à la prospection géophysique ou à la mosaïque. Donc voilà notre programme complet.
En effet, c'est très complet. Je précise que, et vous l'avez également dit, qu'on peut retrouver toutes les infos sur le site internet du site archéologique du Vieil Évreux de Gisacoum, notamment avec les numéros de téléphone et les horaires, que ce soit pour la conférence sur le métier d'archéologue, les visites de chantier en centre-ville d'Évreux, donc sur le site de l'ancien hôpital, l'ancien hôpital en centre-ville d'Évreux, et puis les différentes visites que vous venez d'évoquer, et notamment avec la possibilité de voir les prises de vue aériennes par drone dont vous avez parlé. Et on retrouve tout ça sur le site internet qui va bien pour connaître les horaires. Est-ce que tout cela est payant, gratuit?
C'est en accès complètement libre et gratuit sur le week-end dans le cadre de la fête de la science.
On a un petit slogan, nous, sur Principe Actif, quand on dit quand c'est gratuit, c'est dans tes prix. Voilà, on aime bien. Donc en effet, vous êtes évidemment cordialement invité à vous rapprocher du site Archéo pour en connaître davantage et puis venir. Voilà.
That's the way you get Timberland up.
Yeah, yeah.
That's the way you get Timberland up.
Word up.
That's the way you get Timberland up. That's the way you get Timberland up.
If this was my first impression, I'd be not impressed. This generation held hands and skipped a lot of steps. Don't need a navvy to find these people that I address. I had Rockaway in my dresser, these niggas rock a dress. Let's rewind to that play button that I would press. My Walkman never hopped off my hip. I'm hip-hop to death and seem to still be breathing. I ain't leaving till I'm out of breath. Wheezing, I'm still squeezing some speaking to get up off my chest. Don't toot horns, your hero? Lukewarm. If we sparred, it'd be so hard to recover my shoehorn from his ass. I just laugh at the masses, I'm flabbergasted. The fact is that we had averaged so long we lowered the standards. I stand here as a standout act and can't understand how y'all all standing and clap at this rap like it's outstanding. I withstand it enough, take this bitch hand in a snuff and I'll book you like promoters that hit your manager up. You could be on the floor bleeding if you still acting tough and yuck.
That's the way you get Timberland up.
If you acting like you gangster but a white flag waver, huh?
That's the way you get Timberland up.
Don't suddenly get hot and start fronting on your block,
That's the way you get Timberland up.
If they run up with the drop and you don't come off what you got, then yuck.
That's the way you get Timberland up.
The problem with the shit you say is y'all just ABC. My father's a G, you DA, I reside in the D. You ever try to play with me, must be ADD. You gon' have to hire AAA just to fly to A3C. How could you kill a man who you ain't socially a psychoticist? I wrote this beat on papyrus in the pyramid in BC. You gon' see these Timberlands in 3D. You gon' be able to smoke the treatise on the side of these on GP. As far as war, man, I'm about as prepared as my grandma's for prayer. And I'm a rich player, no handouts at all, dog. I rode this motherfucker gun stuck to me. I watched the wheels fall off, then I ran out of despair. I send niggas at you in broad day just to air case. Triggers a click clack, your killers a six slack, yeah, that's bareface. Your single exceeds your rep, you ain't worth it to paraphrase. You ain't worth a single step in my circular staircase.
You could be on the floor bleeding if you still acting tough and yuck.
That's the way you get Timberland up.
If you acting
looking like you gangster, but a white flag waver, huh?
That's the way you get Timberland up.
Don't suddenly get hot and start frontin' on your block, uh-uh.
That's the way you get Timberland up.
If they run up with the drop and you don't come off what you got, then yup.
That's the way you get Timberland up.
I remember the 90s. Niggas getting chuck teed up. My older brother crippin' chunk C's up. The ops chunk B's up. Then they truck E's up. Right outside of us, time to get out and fight, because only a pussy punk freeze up. Throwing hands with a grown man at 15. Did him like an Apollo Brown beat. He got mixed clean. Jumped in an old school Regal. It's time to switch scenes. But they followed us, put out a gun and let that bitch ring. Bullets tore through the door, so violently, peep out the irony. My brother was shot and corrupt, said the streets is a mother. That's the reason that I just be like corrupt with his younger brother, cause I keep a Roscoe inside of me. Better yet, aim and click with the Ruger. The shit's calm, then I'm Chuck Taylor in your medulla. But in Brookline, no sitcom. I'm hanging with Mr. Cooper in the projects, lacing my gangster boots up. For you, nigga, a Timberland, a sidekick, you Magoo, nigga.
That's the way you get Timberland up.
If you act like you gangster, but a white flag waver, huh?
That's the way you get Timberland up.
Don't suddenly get hot and start frontin' on your block, uh-uh.
That's the way you get Timberland up.
If they run up with the drop and you don't come off what you got, then yup.
That's the way you get Timberland up.
On disait qu'on allait peut-être aller voir le temple, c'est ça.
Aller jusqu'à la temple là de l'autre côté du village.
On voit aller un peu. Non, parce que si tu veux, c'est que je mets ça et quand je mets ça.
Discussion aussi avec le collègue de Monsieur Portela, qui s'occupe de la construction bois, les élèves de la construction bois, autour d'un cintre en fait qui était la petite structure en bois qui permettait de faire des constructions voûtées à l'époque romaine. Donc il y a une petite porte voûtée là dans le temple qu'on va pouvoir apercevoir, que je vais leur montrer comme ça. Notre objectif serait d'essayer de trouver un moyen de reproduire, de remonter ce type de structure quasiment à l'identique. Donc grâce à l'utilisation de ce cintre en bois qui est déjà produit, avec l'utilisation idéalement de pierres provenant du site, du chantier de fouilles, et aussi grâce à des briques qu'on est en train de faire, on travaille avec nos visiteurs à la construction de briques à l'identique pour mettre en œuvre dans cette construction-là. En tout cas, c'est pour ça, c'est important qu'on aille sur le chantier parce que s'ils sont mobilisés sur la suite.
Ouais.
Là, la voûte, elle était pas sans
filet ? Non. Là, on est en...
D'accord.
Non. Non, puis même là, le parement, enfin vraiment de chaque côté, les pieds de la voûte, en fait, c'est vraiment bien là, du moelleux.
Et Brandon, imagine d'en faire de la brique au lycée, comme on a avancé.
Enfin, ceci dit, sauf comme là, comme vous faites un peu au cœur, le remplissage,
on a quand même aussi la clé.
Par contre, le parement, c'est du parement de moelleux.
C'est bon, on est déjà bien de niveau de tout ensemble.
On va remonter l'entreprise ensemble.
Par contre, les aglos...
Moi j'ai fait des bouts sur
des pieds. Non, arrête, c'est ça. Il y a un côté qui était comme ça et un côté qui était comme ça.
Ah oui?
Ça tient parce que les briques sont posées comme ceci.
Ouais.
C'était en complètement.
Quand la fouille a commencé à repris en 2005, le site était complètement recouvert sous une grosse butte de terre, là, au milieu du village.
Ah, il y avait une grosse terre.
C'était apparent, c'est la partie noire, ça.
C'était même pas apparent, c'était sous la terre.
D'accord.
Ah, tout ça, c'était sous la terre.
Ouais, on a des photos, une photo aérienne, notamment de 1976, sur laquelle on voit bien les petits temples à côté. Et ici, on aperçoit la grande butte qui était au cœur du village. Donc, les collègues, quand ils ont repris la fouille en 2005, il a d'abord fallu retirer toute cette couche de remblai, qui était un remblai des archéologues du 19e siècle, parce qu'il y a déjà eu une fouille au 19e siècle, et les archéologues savaient déjà, heureusement, que pour préserver le mortier notamment, enfin pour que ces murs reste en place le plus longtemps possible, il fallait éviter les infiltrations d'eau, le gel et le dégel. Donc heureusement, dès le 19e siècle, ça a été complètement recouvert. Et aussi, les archéologues ont alerté à ce moment-là le département de l'Eure déjà, pour dire, voilà, il y a des vestiges très riches, mais le risque, c'est le pillage des pierres pour construire d'autres bâtiments. Et donc, ça a été aussi acheté par le département. Les parcelles ont été préservées comme ça et recouvertes de terre, ce qui faisait que les vestiges, voilà, étaient à l'abri finalement.
Oui, parce que là, une pierre taillée comme ça, elle était reprise obligatoirement par.
Bah, en fait, on a encore des traces dans le village de fermes ou de petits bâtiments construits avec les moellons, les pierres du site. Mais du coup, on a évité.
Je connais des artisans qui récupéraient jusqu'aux pierres tombales en pierre blanche, mais pour les retailler, parce qu'aujourd'hui, des grosses pierres comme ça blanches sont pratiquement introuvables. Et quand on fait de la restauration de monuments, on est obligé d'avoir la grosse pierre. Donc, c'est vrai que ressortir des vieilles pierres tombales qui sont jetées, parce que vous les jettez, c'est la remettre en valeur. Quoi.
Alors là, ce que je voulais vous montrer sur le temple, notamment, c'est l'usage du silex que vous êtes en train de retravailler vous aussi. D'ailleurs, c'est des silex de récupération que vous êtes en train de travailler, puisque c'est des silex qui ont été trouvés par les archéologues, qui faisaient partie des tas de démolition, qu'il fallait déblayer en fait. Et là, on les aperçoit en fait dans la maçonnerie face à nous. On aperçoit en fait que il y a des joints tirés au fer entre les petits blocs de silex, pour que de loin on ait un peu l'illusion de moellons en fait, et de moellons de pierre. C'est-à-dire que là, faut savoir qu'on était dans le sous-sol du bâtiment. Et pourtant, on est quand même sur une architecture très soignée, les joints, les angles du bâtiment. Donc voilà, on n'avait pas que du moellon calcaire, notamment sur une construction aussi imposante que ça. Dans les thermes, on a beaucoup de moellons de calcaire par contre, mais ce bâtiment était tellement énorme et gigantesque qu'il y avait aussi besoin de beaucoup de matériaux. Donc il y a quand même énormément de silex qui sont utilisés dans ces élévations. Donc là, c'était bien que vous voyiez un petit peu cette alternance de silex et puis de briques.
Est-ce que les silex étaient mis tels quels ou ils étaient retaillés d'abord au format avec la forme et le calibrage qu'on souhaitait, ou non c'était pris comme ça puis on composait avec autour quoi?
Alors en général on essaye de les tailler, ce qu'on appelait nous les têtes de chat avant, et ce qui représente les gros silex noirs avec cette face noire. Mais ça, c'est des silex qui ont été taillés. J'ai dit moi à mes élèves surtout de ne pas les tailler, puisque le problème c'est que c'est comme si on taillait du verre. Aujourd'hui c'est dangereux parce qu'on n'a pas les gants, on n'a pas les lunettes, on n'a pas tout ça. Donc bon, on essaie de reprendre ce qui est. Et bon, par contre, c'est vrai que nous on a monté deux, trois rangs de silex. Et on ne les a pas montés tout à fait comme ça. Donc, il aurait fallu que j'aille un peu plus de temps, parce que le problème, c'est qu'on voit bien que c'est monté par lit. Et le souci, c'est qu'un lit va sécher, et on voit chaque étape. De toute façon, on voit bien les étapes de pose. Et il préférait monter un lit complet en faisant tout le tour du bâtiment. Ça avait le temps de sécher. Et après, on venait refaire des enduits derrière. Donc, il venait refaire le joint pour pouvoir refaire un tracé derrière. Et là, moi, j'ai monté un petit peu plus comme on se trouve un petit peu dans les vieilles fermes. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un maximum de silex pour éviter les remontées d'eau.
Donc, c'est intéressant qu'on compare les techniques, justement.
Après, là, on voit bien qu'il y a beaucoup de mortier par rapport au silex.
Oui, c'est ça.
Mais moi, si je le pose comme ça, c'est des tout petits silex, par contre, que nous, on a pris peut-être un petit peu plus loin.
Ouais.
On a essayé. Après, on peut faire plusieurs choses. Je pense que voilà. L'élévation. Puisque de toute façon, c'est qu'une élévation, c'est qu'une présentation.
Oui, puis c'est une sorte de test pour l'instant entre nous aussi, pour commencer justement. C'est bien ces échanges-là. J'ai pas forcément pensé à vous préciser certaines choses. C'est pour ça qu'il faut venir voir en direct.
Parce que de loin, j'avais vu un petit peu, mais quand on regarde, on est plus proche de ce qu'il y a là-bas sans joint. La partie des murs sans joints.
Oui.
Après, une fois qu'on va avoir fait les joints, ça va paraître un peu plus clair. Ouais. Le mur va ressembler plus un petit peu à ce qui est là. Mais il faut qu'on aille faire les joints. C'est pareil, un travail, ça se juge qu'une fois qu'il est fini. Mais j'aurais du mal à vous ressortir, nous, les alignements, puisqu'on n'a pas pris des pierres alignées.
Oui, je comprends.
Mais
ça veut dire qu'il y a une sélection des voilà. silex là voilà, pour faire des lits très voilà. bien sûr, ouais, des lits uniformes.
Mais on a du tout faire au prochain.
Ouais, ouais, c'est ça. Prochain étage. Là, on a fait la fondation du muret. On peut essayer de le faire pour la prochaine. Ouais.
Prochaine étape.
Ça marche.
Bah demain.
On va s'approcher peut-être de la petite porte voûtée qu'on aperçoit à peine là-bas, si vous voulez la voir de plus près.
On vous suit.
Je pense que c'est du ciment, c'est de la terre qui m'étonne.
Ah non, c'est que de la chaux là.
Ah, c'est de la chaux.
C'est que de la chaux.
C'est de la chaux et du sable, donc c'est du sable très fin. Parce que c'est la... À l'époque, ils utilisaient du sable à la fin.
Du sable à quoi à l'avant.
Oui, c'est qu'on a fait du sable à la fin. Le problème du sable à la fin, c'est que c'est très fin. Le rose qui est à l'intérieur, c'est du. C'est de la brique, de la brique.
Oui, il y a un peu d'argile en fait, effectivement, de terre cuite.
Pour le public
oui.
et c'est pour ça que nous on va plutôt aller chercher des choses bien plates, bien ouais, droites
comme ça.
Pour éviter d'avoir des soucis parce que une personne qui est en robe qui va longer le mur, elle a un risque de
là on était dans les sous-bassements en fait du temple, donc on n'a pas la même à l'époque en fait moins un espace de circulation effectivement par rapport à ce qu'on est en train de voir donc alors malheureusement on peut pas la voir des deux côtés mais on aperçoit quand même la petite porte voûtée. Elle est mieux conservée de l'autre côté en fait. Il y a des photos, les photos plus parlantes, c'est celles qui sont de l'autre côté. Un petit passage quoi. Oui, une petite porte parce que je crois que ça fait 1,80 m de haut. Hein. Mais ils sont pas bien grands à l'époque.
À l'époque donc, non,
c'est normal.
À l'époque, c'était
du, coup, là en plus, ce que j'ai compris, c'est qu'on était en sous-sol là. Donc là, oui. Ils descendaient en plus, c'est ça.
Oui.
Un peu comme s'ils allaient à la cave quoi.
Ouais, sachant qu'en fait, nous, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que malgré tout le soin qu'on voit apporté quand même à cette petite porte voûtée, le parement sur le côté qui est très net, ça a été bouché en fait dès l'Antiquité. Donc il a fallu à un moment donné accéder dans la pièce dans laquelle on se trouve ici. Mais finalement après, on est au début du 3e siècle, une fois que le grand temple est ouvert, une fois que l'espace de circulation là est au-dessus de nous, très certainement cette porte-là, elle a été obstruée, et bouchée, remblayée déjà dès l'époque pour construire le niveau de circulation entre les deux temples. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand même la qualité de ces architectures. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'était les sous-sols du temple du 3e siècle qui n'étaient pas visibles des pèlerins et des visiteurs. Pourtant, on voit quand même qu'il y a un soin qui est accordé aux finitions.
Les briques à champ, les briques ou de la pierre, hein, parce que là tu avais de la pierre plate qui était à champ. Donc on te mettait.
Il y a les deux là.
Donc on te mettait un coffrage. Donc on te mettait. Je peux.
Oui.
Donc ici, on a ce qu'on appelle la naissance. La naissance, tu vois, c'est une pierre qui est posée là et qui nous permet de poser le coffrage en arrondi. Une fois que le coffrage était posé sur cette naissance, on venait positionner les pierres et on faisait un remplissage par le dessus. Une fois que c'était sec, on pouvait enlever le coffrage. Et la voûte tenait, puisque obligatoirement, toutes les pierres rayonnent par rapport à l'axe qui est au milieu. Mmh. Quand on regarde bien, normalement, elles doivent rayonner par rapport à un axe qu'on a là. Donc quand on pose, nous, la même chose en brique, on a toujours la même façon de faire. On prend l'axe de la pierre et on vient la rayonner avec une ficelle en la posant sur notre coffrage et on va faire rayonner l'ensemble. Alors c'est vrai que extérieurement la partie de la voûte
oui.
dessus doit être plus belle devant.
Elle est mieux conservée voilà. par là, oui.
Et toute cette partie-là servait de passage, donc était taillée, on voit encore
les traces d'outils.
Les traces d'outils qui étaient là. Donc ça c'est coupé même à la scie. Hein. Ça c'est des traces de scie, directement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre. La pierre de moellon comme ça, quand elle est extraite et quand on la quand on vient d'extraire d'une carrière, elle est très tendre, et en fin de compte, avec une scie, une simple scie ou une lime, on va arriver à la couper. Et plus elle va durcir, plus elle va sécher dans le temps, plus elle devient dure.
Donc voilà, le projet qu'on pourra peut-être un jour développer ensemble pour montrer au public.
Athènes frontière, Athènes vieille, je te pense, donc je frappe. Ne jamais placer son tibia près des propylées. Je pense, donc je frappe. Descendre les champs martyrisés. Je pense, donc je frappe. Avec des bouts de foie, tromper les vautours. Je pense donc je frappe. Garez-vous des atlas, méfiez-vous des Sisyphes. Je pense donc je frappe, impuissant et outrecuidant. Je pense donc je frappe, Alcibiade, goudronné au rouleau compresseur. Je pense Platon, donc je frappe. Je rêve Échille, Homère. Mer divin, la mer vineuse. Elle frappe, donc je frappe. Te mutiler la terre et te faire enfin mienne. Je pense ta démocratie, donc je frappe. Athéna la mielleuse, l'America l'esclava gratte. Je pense donc je frappe. Athènes amie mitée, quasi menteuse. Je qui bat le tambour. Je chante une mémoire anesthésiée. Cependant, j'écoute. Je pense le ressac de l'univers. Et mes oreilles qu'Athènes ressuscite. Mais je frappe toujours la mer. Elle me frappe, la mère démocratie viciée, la rompue, la corruptrice, l'accord. La divine Athéna me frappe. Tu penses donc tu cherches si loin, trop loin. Frapper, frappe. Je frapperai à ta porte et sans majuscule, destinée. On pense, on frappe. J'inspire profond. Pas très bien. Trop loin.
Bulle et reportage, principe actif.
Du centre archéologique qui sera présenté dimanche après-midi par le responsable de la mission archéologique. Donc là, on passe à côté des réserves. Tout le rez-de-chaussée, en fait, sont les espaces de travail, de traitement des objets trouvés sur le site. Il faut les laver, les trier, les inventorier, les mettre dans des caisses et ensuite à l'abri dans de bonnes conditions de conservation. Donc ça, c'est ce qui sera présenté dimanche après-midi.
C'est quoi les bonnes conditions de préservation? J'imagine pas de lumière, pas d'air, Enfin, voilà.
Alors, bah, il faut, pour certaines, en fonction des matériaux, en fait, hein, il y a des matériaux stables qui ne craignent pas, en fait, ni trop les changements climatiques, donc qui peuvent être stockés dans la grande réserve. Puis, on a une plus petite réserve dont la température est contrôlée, en fait, pour avoir toujours une stabilité, et puis, effectivement, contrôler le taux d'humidité. Ça va être ça, température et humidité pour des pièces, notamment en bois ou en métal. Pour les pièces métalliques, le fer notamment, qui est plutôt instable, là, on a les bonnes conditions pour conserver au mieux ces matériaux-là. Par contre, la pierre, la terre cuite, les os, les coquilles, c'est pas très fragile, donc ils peuvent être stockés sur les grands rayonnages qu'on aperçoit ici. Voilà. Et donc les collègues, bah aussi, ils travaillent dans leur bureau. Ils ne sont pas tout le temps sur le chantier, pas tout le temps sur le terrain, parce que toutes ces données, ensuite, il faut les exploiter. Ils doivent rédiger des rapports, donc on peut aller accéder là au bureau et aller voir Vincent.
Rebonjour.
Ce que tu vas faire demain.
Complètement.
On va prendre un support.
Ah. Tac. Alors, je vais déjà vous demander voilà, quel rôle et mission vous avez ici sur le site archéologique.
Moi, je travaille pour le pôle préventif, donc un des trois volets de la mission archéologique départementale. Donc nous, on intervient sur tout le territoire départemental pour ce qui est de l'archéologie préventive, donc tout ce qu'on, toutes les procédures de diagnostic et, le cas échéant, de fouilles préalables à l'aménagement du territoire. Je suis spécialisé dans la période proto-historique, donc grosso modo 2500 à 0, à 2500 avant, évidemment. Et avec une sensibilité pour les arts du feu, donc j'étudie un petit peu la céramique et également la métallurgie, les métallurgies anciennes, puisque j'ai travaillé, je continue à travailler sur la métallurgie du bronze et également un petit peu sur la métallurgie du fer. Et donc, ce qu'on va faire pour la fête de la science, c'est avec un double enjeu, en fait, un enjeu scientifique d'une part et un enjeu public d'autre part, un enjeu de médiation culturelle, où dans ce cadre-là, on va effectuer donc une expérimentation de réduction de minerais, de fer, selon les procédés anciens, donc du bas fourneau, qui sont les procédés en œuvre avant le 13e siècle, grosso modo, avant l'invention du haut fourneau. Donc c'est ce qu'on appelle le procédé direct, où on va obtenir de façon relativement simple une masse de fer brut à partir de minerais. Donc là, on va être sur un modèle gaulois de la fin de la période qu'on appelle l'Athènes. Donc on est aux alentours de entre 100 et 50 avant Jésus-Christ. Et en fait, on a effectué une fouille au printemps dernier sur la commune d'Audebouville dans le nord du département. On a trouvé justement un four de réduction et on se posait la question, suite à un certain nombre d'interventions sur cette commune-là, de la réductibilité de minerais, en tout cas de cailloux qui ressemblaient fortement à du minerai, qu'on trouve en quantité modeste sur place. On se demandait si c'était exploitable. On retrouvait pas mal de scories, de déchets de réduction. Et lors du dernier diagnostic et donc de la fouille, on est tombé sur un four de réduction où là il y avait absolument pas photo sur la nature de la structure. Et l'idée, en fait, on a ramassé donc du minerai sur place. On a étudié un petit peu le four, bien évidemment. Et on a ramassé de l'argile, on a récolté de l'argile aussi sur place pour se mettre dans les mêmes conditions que là-bas, parce qu'on n'a pas forcément le même substrat là-bas qu'ici au Vieil-Évreux. À la base, on voulait faire cette expérimentation sur place, mais on n'a pas pu, faute de temps. Donc on met ça en œuvre ici, mais dans les conditions vraiment de là-bas, avec le minerai puis le four monté avec l'argile là-bas. Et donc on va mettre ça en œuvre à partir de demain. On va avoir une première phase donc de montage du four. Donc on va intégrer, alors c'est peut-être le seul élément qui sera pas d'époque, c'est on va mettre du foin pour ce qu'on appelle dégraisser un petit peu l'argile qui va servir au montage du four. Donc on va faire des petits pains d'argile qu'on va empiler pour faire une cheminée autour d'un petit trou qu'on aura creusé au préalable. Et puis on va ensuite cuire ce four pour qu'il se rigidifie, qu'il devienne un peu céramique. Et on va continuer ensuite à monter en température jusqu'à 1200-1300 degrés avec des charges successives de charbon et une alimentation en oxygène par le biais d'une tuyère qui vient s'insérer dans la paroi. Là, on va tricher un petit peu. On sera dans une alimentation forcée électrique en oxygène. Normalement, ça se fait avec des soufflets ou en ventilation naturelle, mais c'est beaucoup plus technique. Là, l'idée, c'est vraiment de tester le minerai, voir si on obtient vraiment du fer avec ce minerai-là. Donc ça, c'est un premier volet. Donc ensuite, samedi, on monte en température et puis on va commencer première réduction dans la nuit de samedi à dimanche. Il faut plusieurs heures hein, pour tout ça, bien sûr. La cuisson du four, c'est 8 heures environ. Donc
déjà, c'est une journée.
C'est long. Le montage du four, c'est 8 heures, 8-10 heures aussi. Sachant qu'on va en monter deux, parce que le deuxième four sera un peu plus gros, parce que lui est plus destiné donc voilà à la communication pour le grand public, là pour montrer le principe de la réduction en bas fourneau. Et on a un collègue qui va ramener du minerai industriel. Mais là, c'est pour montrer le principe au public et pouvoir mettre un peu des images sur des mots qu'on connaît plus ou moins dans notre horizon.
Alors pour décrire et puis voir si j'ai bien saisi aussi de quoi on parlait, mais vous êtes sympa, vous m'avez sorti un petit plan sous les yeux, mais vous l'avez évoqué, je reprends un peu cet élément-là. À la base, on a un trou, une fosse sur laquelle on va monter une cheminée en argile, c'est ce dont on a parlé à l'instant. Donc ça, et déjà rien que ça prend du temps à être monté puis ensuite à être cuit pour que ce soit solide. Évidemment, on peut là je vois sur le plan amener tout simplement. Alors vous le disiez, si c'est du charbon qu'on brûle à la base du four, c'est les matériaux qui va brûler, c'est ça.
C'est le combustible. Voilà, on a le carburant, donc ça va être le charbon, et le comburant, l'oxygène, pour qu'on ait vraiment une combustion optimale, une montée en température. Évidemment, on va faire une porte dans le four, mais qu'on va sceller pendant toute la durée de chauffe, qui permettra ensuite l'évacuation d'une partie des scories. Et donc les scories, ce sont tous les déchets en fait qui sont stériles, qui sont inutilisables, toute la partie siliceuse qui va se retrouver piégée. Ça a un aspect un petit peu métallique, parce qu'il y a toujours un petit peu de métal dedans, mais c'est inutilisable. C'est ce qu'on voit un petit peu sur le plan. Nous, c'est ce qu'on va retrouver, puisque lors de la dernière cuisson dans un four, il ne va rester, à moins qu'il l'ait évacué quand même, que la scorie de fond de four, donc le déchet, mais qui nous indique une structure particulière et qui nous indique bien que c'est une...
C'est pas intéressant,
un four de réduction, mais qui est pas intéressante en soi. La masse de fer brut va se former plus haut. Ah, voilà, fait, dans l'architecture.
Alors, quelle propriété justement scientifique, enfin voilà, comment on explique que ce qui va être de l'ordre du déchet qui ne vous intéresse pas va tomber au fond?
Parce que c'est beaucoup plus fissible. On va passer là en fusion pour ce qui est des déchets, voilà, une température de fusion moindre, donc ça va couler, pas forcément liquide, mais au moins l'état beaucoup plus pâteux, et descendre dans le fond du four. Alors que le fer, sa température de fusion est à 1484 degrés, je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais là, on va monter qu'à entre 1200 et 1300 degrés. On n'est pas dans la fusion là du fer. Il va passer à l'état un peu mou, rouge, blanc, mais pas liquide. Et donc nous, on va avoir une masse, cette masse incandescente qu'on va venir récupérer à la fin, en cassant la porte du four, évacuer les déchets et aller chercher la masse
sans
de
brûler.
Fer sans se brûler, qu'on va ensuite mettre sur un bio et puis taper pour évacuer tous les derniers petits déchets qu'on va trouver dedans, pour épurer cette masse de fer brut et pour éventuellement former un lingot. Et donc c'est ces lingots qui ensuite sont exportés pour les forges environnantes.
C'est ça, c'est qu'à partir du moment où on a reformé ce lingot, enfin on a vraiment extrait que ce qu'on voulait de la matière ferreuse, c'est comme ça qu'on dit. Désolé, moi je suis pas spécialiste du domaine. Ça nécessite évidemment qu'on le réchauffe
en permanence
à une température encore supérieure pour pouvoir le forger, manipuler comme on le souhaite.
Ça va être en permanence réchauffé, ne serait-ce que pour l'épuration, juste après la sortie de la réduction. On va le réchauffer à plusieurs reprises pour le garder en température, battre le fer tant qu'il est chaud, pour pouvoir continuer à le mettre en forme et en tout cas au moins l'épurer. Et voilà, donc ça c'est une activité qui est a priori toujours pratiquée sur les sites où l'on trouve du minerai. Il peut y avoir de la forge sur ces sites-là, mais ensuite, généralement, la matière première est ensuite exportée. Voilà, on ne transporte jamais du minerai, très rarement. Et c'est lourd. Et il y a une phase de préparation qu'on a déjà faite il y a quelques jours déjà. C'est la préparation du minerai, qui ressemble à des... Ça ressemble un petit peu à ça.
Alors est-ce que ça a un nom particulier, ce minerai? Est-ce que voilà,
en l'occurrence, on ne sait pas encore ce que c'est. Il faudra qu'on fasse des analyses dessus. On va garder des échantillons bruts. Ce minerai, on va le passer au feu pour le fragiliser et surtout le débarrasser de toute son eau. Ce qu'on ne dirait pas, mais c'est plein d'eau. Là, par exemple, le minerai qu'on a ramené, on en avait 13 kilos. Après le grillage, on n'a plus que 10 kilos. On a perdu quasiment 3 kilos en eau et en gaz d'hiver. Et ensuite, ce minerai, on va le concasser. Il va s'aimanter en passant au feu et devenir extrêmement fragile aussi. Et donc, on va là avec une petite massette, c'est très facile, ça devient très friable. On va le casser et en faire du gros sel. Et c'est ça qu'on va introduire par couches successives avec le charbon par la cheminée du four.
Où est-ce qu'on le retrouve, ce minerai là? C'est des choses qui viennent du coin là, si je comprends bien.
Ouais, là on est sur Eudebouville, on est c'est assez étonnant, mais on est dans un contexte de plateau, juste au-dessus de la vallée de la Seine, au niveau du péage de Eudebouville. Est-ce qu'on est sur des terrains assez anciens? On n'est pas dans les terrains tellement limoneux comme on peut en trouver généralement sur les grands plateaux là de l'heure. C'est quand même assez rare d'en trouver dans ces contextes-là. On en a beaucoup plus dans le nord là de la Seine-Maritime, du côté de Forges-les-Eaux, comme son nom l'indique. C'est un coin à métal depuis très très longtemps, où là on en retrouve en quantité et en qualité assez importante.
Et sur la et ce sera peut-être là ma dernière question, sur la composition de ce minerai, qu'est-ce qu'on retrouve? On cherche du fer, et évidemment, c'est tout le principe qu'on vient d'expliquer à l'instant, mais qu'est-ce qu'on retrouve d'autre comme matériel?
Il y a du soufre, il y a de la silice, éventuellement des carbonates, et c'est un peu toute cette soupe qu'on va retrouver ensuite dans la scorie, toujours associée avec un petit peu de fer, et puis après je vous passe toutes les formules chimiques de passage d'un état à l'autre.
Ce que vous disiez à l'instant, juste avant, c'est ce minerai-là qui est un peu typique du coin de Doubouville, notamment, et bon, d'autres endroits, mais voilà, ce minerai-là, on va pas forcément, ce sera pas le même qu'on retrouvera ailleurs.
Non, ce sera pas typique de
l'endroit.
Il y a des classes de minerais, des familles de minerais, mais chaque minerai, après, selon la géographie, a une composition bien particulière. Là, ici, on n'a pas de grandes attentes, c'est vraiment juste pour répondre à la question, est-ce qu'il est réductible ou pas? A priori, oui, puisqu'on a trouvé un four de réduction. Mais voilà, on veut voir et puis pouvoir comparer les données de l'expérimentation aux données de la fouille pour voir, comparer un petit peu les données. Après, je ne sais plus ce que je voulais dire.
En tout cas, c'est tout l'intérêt de ce qui va se passer ce week-end dans le cadre de la fête de la science, c'est de comparer. Voilà, on a retrouvé un four, en l'occurrence sur Debouville. Voyons si, en effet, en reprenant du minerai qu'on pouvait trouver sur cet endroit-là, refaisons l'expérience pour vérifier qu'en effet, on pouvait forger derrière et pourquoi pas faire une épée ou je ne sais quoi en fait.
Voilà, ou de la petite forge d'appoint, parce que là, clairement, on n'est pas sur de la grosse production dans tous les cas.
Bon, je ne fais pas mon épée.
C'est pas un gros site de production. Mm-hmm. On aurait des traces beaucoup plus importantes. Ouais. On aurait des ferriers, notamment des montagnes de déchets, donc des montagnes de scories, si c'était un gros site de production et d'exportation à l'époque. Là, c'est opportuniste. Il y a des chances sur ce site-là, mais c'est déjà une donnée assez importante, parce que ça peut aussi permettre de se poser la question et de faire des découvertes dans des endroits insoupçonnés ailleurs dans le département, dans des contextes similaires. Voilà.
Très bien. Merci à vous, Vincent.
Je vous en prie.
Bulle et reportage, principe actif.